France Inter, Élysée 2022.
Ce vieux pays qui est le nôtre, qui parle souvent et à juste titre de fatigue démocratique, d'institutions qui paraissent à certains vieillissantes, mais qui au moment du débat d'entre-deux-tours, le débat d'entre-deux-tours, aime à retrouver ses marques d'exercice contraint et corseté. Où la vraie différence avec tous les débats de la Ve République, la seule concession, la légère sortie par rapport à d'habitude, sera l'éloignement du bureau des journalistes pour que les deux candidats soient réellement face à face. Pour le reste, la grand-messe convenue reste la même. Et la question, qu'est-ce que ça change dans la tête des électeurs? À cette question-là, la réponse en général est rien ou pas grand-chose, mais on adore quand même, et que ce studio me tombe immédiatement sur la tête si les candidats ne sont pas en ce moment même à la recherche de la punchline qui marquera le débat, entrera peut-être dans l'histoire aux côtés des hommes du passé et du passif, des mois présidents, des colères parfaitement saines, des bien entendu monsieur le Premier ministre ou plus récemment des envahisseurs. En plus du cérémonial, cette fois, on dira quand même que c'est un match retour que ce débat. On dira que l'enjeu, celui d'une alternance très inédite et très différente de tout ce que nous avons pu vivre précédemment. On se dira aussi que dans la crispation politique qui est la nôtre depuis le premier tour, ce débat peut remobiliser ou démobiliser les électeurs, et ma foi, ça compte. En attendant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On a deux heures pour en parler, c'est le téléphone sonne, et soyez les bienvenus.
France Inter.
Benjamin, c'est vous le premier, bonsoir.
Bonsoir, Fabien de Synthèse.
Et on vous écoute, Benjamin.
Et merci pour la qualité de vos émissions, tout d'abord. Moi, j'appelais pour dire que je suis très étonné, je comprends très bien aussi, mais qu'on appelle ça un débat, parce qu'on sait très bien finalement que les hommes politiques et les deux candidats, notamment, là, sont parfaitement préparés pour faire passer leur message, et que finalement, l'écoute et le débat n'existe absolument pas, et n'a jamais existé sur ces émissions. Et finalement, en fait, je pense que ça, c'est un spectacle qui se prépare et tous ceux qui vont regarder le débat ce soir s'attendent à ce spectacle, éventuellement à la petite phrase qui tue, mais qui a absolument aucun intérêt. Et c'est pour ça que d'ailleurs, personne n'a voulu débattre avant le deuxième tour. C'est un énorme risque pour eux, quoi.
Mmh. On verra si c'est effectivement un énorme risque et jusqu'à quel point, en fait. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. D'abord, Chloé Morin est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez écrit notamment « On a les politiques qu'on mérite », publié chez Fayard. Jérôme Jaffray est là aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, chercheur associé au CEVIPOF. Et puis, de la rédaction de France Inter, nous avons Maxence Lambrec du service politique, Élodie Forêt du service politique aussi, et qui vont suivre tous les deux ce débat pour nous tous. Je voudrais, pour revenir sur ce que dit Benjamin, Chloé Morin, vous qui avez écrit « On a les politiques qu'on mérite », est-ce qu'on a aussi au fond les débats qu'on mérite? Et que c'est aussi pour tout cela que nos débats sont aussi basiques et sans surprise en fait.
Oui, même si on continue, vous l'avez dit en introduction, à en attendre des surprises. Il y a un côté spectacle dans ce débat-là, et c'est vrai que aujourd'hui un grand nombre des électeurs disent déjà avoir fait leur choix. Néanmoins, ils aiment toujours se dire que à un moment donné, ce débat compte pour faire ce choix. C'est vrai qu'il y a une part d'artificialité dans l'exercice, et que on voit pas l'un convaincre l'autre. Donc de ce point de vue-là, c'est pas un vrai débat. Néanmoins, il y a une part d'incertitude. On l'a vu la dernière fois. Marine Le Pen s'est quand même humiliée. Et là, ce qui est très intéressant de regarder dans les sondages, c'est que ceux qui sont le plus enclins à dire que ce débat va compter, c'est les électeurs de Marine Le Pen. Parce que justement, ils se sont fait avoir une fois, ils se disent, si elle se fait humilier une deuxième fois, peut-être qu'on va pas y retourner. Donc, c'est quand même pas quelque chose de, comment dire, totalement balisé, même si c'est extrêmement corseté, comme vous l'avez dit.
Est-ce que c'est elle qui joue le plus gros, vous diriez, Jérôme Jaffray, ou finalement les deux? Parce que, en effet, en face, il va y avoir autre chose.
Les deux. Benjamin nous a dit que c'était pas un vrai débat, puis il a fini en disant c'est un énorme risque pour les deux. Donc, l'énorme risque dit bien que chacun joue très gros dans cette élection, puisque c'est une élection, pour le moment, où on n'a pas vraiment envie d'élire l'un ou l'autre pour parti, pour beaucoup de Français, énormément de Français. Et le débat, il se fait donc un peu avec les Français. plus qu'entre les deux. Hein. Personne ne va convaincre, évidemment, Marine Le Pen. Emmanuel Macron va pas la convaincre, et inversement, ça marche pas.
Ce serait inédit, là, pour le coup.
En revanche, vous avez une partie importante des Français qui ne sont convaincus ni par l'un, mm-hmm, ni par l'autre. C'est à ceux-là que le débat s'adresse ce soir, et c'est inédit à dans cette ampleur et dans ce mouvement. Mmh. Donc, c'est important. Les débats de la présidentielle, c'est effectivement quelque chose de toujours extrêmement marquant, et d'abord, ça fige l'image des candidats pour longtemps.
Mmh. Mais ça veut dire que ça peut être mobilisateur, donc, en fait. Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, Jérôme Jaffré, c'est que ça peut être mobilisateur, ce débat-là, au fond. Précisément, comme vous le disiez, parce qu'on est encore autour de 26,5% d'abstention.
Allez-y. Du côté d'Emmanuel Macron, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire, réveiller le vote contre. Le vote contre Le Pen, théorisant que le second tour ne peut pas être un vote d'adhésion, mais qu'il faut amplifier le rejet de Marine Le Pen à travers ce débat et lancer tous les épouvantails possibles pour susciter davantage de votes Emmanuel Macron et le moins d'abstention possible.
Et pour Marine Le Pen, pour le coup,
pareil,
là...
Alors ça va peut-être pas être dans le même... elle va pas forcément balancer les épouvantails, pour le coup, contre Emmanuel Macron, mais elle, ce qu'elle va chercher, c'est à rassurer, en fait. Enfin, elle a vraiment, elle, une part d'électeurs à aller chercher dans ce débat-là, à convaincre, à leur dire, ça y est, en 5 ans, j'ai travaillé, je suis plus compétente que je ne l'étais, je suis plus crédible, vous pouvez être rassurée et voter pour moi. Donc pour elle, il y a quand même un vrai enjeu, et je rebondis, effectivement, ce n'est pas du tout de convaincre Emmanuel Macron, l'enjeu c'est d'aller chercher les gens, et il y a une part de marché d'abstentionnistes notamment à aller chercher.
Ce qui est intéressant chez Marine Le Pen, Chloé Morin, c'est qu'elle a une crédibilité quand même, là pour le coup, d'un débat à l'autre de 5 ans à 5 ans, elle a une crédibilité à se refaire là ce soir, c'est surtout ça qui compte pour elle en fait.
Oui, bah, le précédent du premier débat reste un traumatisme, surtout pour ses électeurs, même si on voit bien, à la fois au score qu'elle a fait au premier tour et à ses traits d'image, qu'elle a rétabli une partie des choses, et c'est ça qui est assez impressionnant. Je regardais un sondage Ipsos publié aujourd'hui, qui montrait qu'en fait, lorsqu'on pose la question aux Français, est-ce que avec Marine Le Pen présidente, votre vie sera meilleure ou moins bonne, les scores sont meilleurs que lorsqu'on pose la question avec Emmanuel Macron. Mmh. Donc on voit bien que quand même la tendance de fond, même si les gens se disent peut-être pas, elle maîtrise les dossiers, etc. Mmh. Et même si elle garde des éléments qui sont effrayants, elle a quand même réussi à reconstruire toute une crédibilité, notamment sur la question centrale qui est celle du pouvoir d'achat.
Et d'ailleurs, c'est notamment quelque chose qu'on a beaucoup entendu sur le terrain, c'est « elle a bossé ». Moi, ça m'a surpris toute la campagne. Vraiment, les gens, ils viennent vous voir, enfin nous, les journalistes, en disant « elle a changé, elle a travaillé, ça se sent ».
Jérôme Jaffré.
Oui, le fait nouveau de débat, Emmanuel Macron est sortant.
Ouais.
Et ça change radicalement les choses par rapport à 2017. Le favori entrant, c'est quelqu'un à qui vous ne pouvez pas dire votre bilan est catastrophique, il n'a pas de bilan, il est entrant. Et Emmanuel Macron avait cette situation exceptionnelle en 2017. Donc ce qui va être très intéressant dans le débat de ce soir, c'est de savoir dans quelle mesure Marine Le Pen arrive à faire du bilan d'Emmanuel Macron le repoussoir qu'elle va essayer de formuler vers les Français. Et elle, effectivement, vient de le dire Chloé Morin, une forme d'espoir d'une amélioration, puisque on ne peut rien lui reprocher. Emmanuel Macron lui dira, alors je parlerai après de la stratégie d'Emmanuel Macron, mais pour Marine Le Pen, c'est ça l'axe, manifestement, renvoyer en permanence Emmanuel Macron sur son bilan, comme François Mitterrand en 1980.
J'allais dire, c'est l'homme du passé et du passif.
Avait pu renvoyer Valéry Giscard d'Estaing en permanence au bilan. C'est la difficulté pour Emmanuel Macron. Comment lui parler des 5 prochaines années et de ce qu'il veut faire pour le pays avec une Marine Le Pen qui lui dira en permanence, écoutez, avec le bilan que vous nous présentez, parlons d'autre chose.
Et laisser de la place, c'est-à-dire c'est du temps de parole. Hein. Mmh. C'est l'égalité stricte du temps de parole, un débat. Hein. Et défendre son bilan, ça va forcément lui prendre peut-être 50% de son temps de parole. À côté, quelle place restera-t-il pour impulser du positif? Parce que l'idée aussi d'Emmanuel Macron, c'est d'être le candidat de l'avenir, optimiste, positif. Et donc de ne pas être toujours dans la réplique aux attaques de Marine Le Pen. Et
puisque vous vouliez parler stratégie, Jérôme Jaffré, je pense que ça va pouvoir coller avec la question de Chloé. Bonsoir Chloé.
Oui, bonsoir.
Une nouvelle Chloé, alors.
Oui, il y a plein de Chloé ce soir. C'est un club de Chloé. Bonsoir Chloé.
Exactement.
Allez-y.
Ben en fait, moi, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez. En effet, moi, j'ai 25 ans, je suis assistante sociale. J'ai toujours baigné dans la politique. Mon père est politicien au niveau local. Et moi, ce que j'attends de ce débat, en fait, c'est qu'Emmanuel Macron arrive à me convaincre de voter pour lui. Alors, uniquement pour voter contre, en fait, Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, je suis tellement déçue du bilan des 5 dernières années et surtout de la politique qu'il propose et du programme qu'il propose pour les 5 prochaines années, que là, je suis résignée et j'ai clairement pas envie de voter. Alors, le vote étant hyper important pour moi, je voterai, mais voilà, à contre-cœur, et j'ai envie de voter blanc. Donc moi, ce que j'attends ce soir, en fait, c'est principalement qu'il s'ouvre et qu'il montre qu'il puisse avoir une politique de gauche, parce que là, ce qu'il propose, c'est clairement une politique de droite. Donc comment est-ce qu'il va réussir à convaincre notamment les électeurs de Mélenchon, alors qu'ils avaient voté ou par stratégie ou par voilà conviction comment est-ce qu'il va s'en sortir ce soir?
Et c'est ça qu'on va regarder, Jérôme Jaffré, en effet, parce que l'une des clés est là, et c'est là qu'il faut user de quelle stratégie, justement?
Oui, c'est la question, parce que Chloé, notre deuxième Chloé, nous dit il faut qu'il me convainque, il va mener une politique de gauche. Je dirais, si Macron se met soudain à faire dire qu'il va mener une politique de gauche, alors que les Français sont persuadés qu'il a mené une politique plutôt de centre-droite depuis 5 ans, la cohérence égale zéro. Donc, pour lui, il faut échapper évidemment largement aux notions de gauche et de droite, ou en tout cas dire en permanence qu'il puise des deux côtés. Son axe, me semble-t-il, on fait des hypothèses, hein, on est à moins de 2 heures de tout cela, c'est projet contre projet, lui. C'est, on oublie le bilan. Plus il parle du bilan, plus il perd du temps dans ce débat. Projet contre projet, avec l'axe central qu'il peut avoir, c'est d'expliquer que l'application du projet de Marine Le Pen nuira principalement et d'abord aux électeurs de Marine Le Pen. C'est ça son axe, manifestement, pour ce soir. Et en d'autres termes, l'application des mesures que propose Marine Le Pen aura des effets délétères, après quelques mesures positives au début pour les baisses de taxes et compagnie. Ensuite, cette politique sera négative. Et lui, sa politique construit des choses progressivement, et ça c'est plus difficile, parce qu'il n'a pas des mesures spectaculaires à sortir de son chapeau qui rassurerait notre deuxième Chloé, mais c'est la seule façon pour lui d'arriver, et donc effectivement, Marine Le Pen parlera du bilan, et lui essaiera de démolir le projet de Marine Le Pen. Ça va être le match de ce soir.
Maxence, et puis la première Chloé dans un tout petit instant.
Est-ce que je peux me permettre une question Chloé? Qu'est-ce que vous retenez de ces 10 jours d'entre-deux-tours? Parce que normalement, Emmanuel Macron, il vous a parlé en fait. Il a essayé de bouger et d'envoyer des petits signes de gauche, de revenir un peu sur les retraites, de parler de l'allocation adulte handicapé. Est-ce que vous retenez quelque chose de l'écologie à Marseille? Est-ce que vous retenez quelque chose?
J'ai peur en fait que ce soit du flan. Enfin, très clairement, moi ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est comme disait votre collègue, c'est que du coup aujourd'hui il essaie de dire bon, je peux revenir sur certaines mesures et essayer du coup de d'amener l'électorat de gauche à voter pour moi. J'ai peur que en fait sur les prochaines années, ils mettent en application uniquement ce qu'il avait promis avant. Ça me parle pas, ça me parle peu, ça me fait peur, vraiment. Je trouve qu'aujourd'hui, l'entre-deux tours qu'on a et les deux candidats qui nous sont proposés, alors à différents niveaux évidemment, on peut pas les comparer sur plein de plans, mais néanmoins, la politique qu'ils proposent me fait super peur, quoi. Et là, ça me parle pas.
Merci Chloé, c'est vers vous que je vais me tourner, Chloé Morin, là-dessus. Et en effet, j'entends ce que dit notre auditrice, mais il y a eu des attentes et des espérances de la part de ces électeurs-là sur des choses que Emmanuel Macron pouvait pas renverser, en fait. Enfin, on n'allait pas en faire subitement un homme qui ressemblerait à Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Donc ce chemin-là, en fait, de toute façon, est-ce qu'il est même rattrapable?
Non, ce qui m'a le plus étonné, c'est quand il a dévoilé son programme, parce que effectivement, les principaux marqueurs qu'on a retenus de son programme sont des marqueurs de droite, et c'est vrai que c'était pas acquis qu'il irait à ce point-là sur la droite dès l'entrée de sa campagne. Et dès lors que il avait de bonnes chances tout de même de se retrouver face à l'extrême droite, c'était pas difficile de s'imaginer qu'à un moment donné il allait devoir parler davantage à la gauche. Et donc il se retrouve en situation de devoir parler à la gauche pour la première fois au lendemain du premier tour. Ou presque. Et donc là, il y a un problème énorme de crédibilité. Et d'ailleurs, ce que l'on remarque, c'est que les reports des voix de Jean-Luc Mélenchon s'améliorent pas tellement. En fait, ça bouge assez peu depuis 10 jours. Bien qu'il ait fait un meeting tout entier consacré à l'écologie, bien qu'il ait évoqué la possibilité d'amender la mesure sur les retraites. Et donc là, il a un vrai problème de crédibilité. Et finalement, ça permet de toucher du doigt peut-être l'enjeu principal pour lui aujourd'hui. C'est que finalement, les sondages disent qu'il va gagner. Il y a plein de gens à qui ça convient et qui risquent de se dire, et ça c'est le principal risque pour lui, bon, mais c'est pas la peine de se déplacer.
Et c'est comme ça qu'effectivement le chiffre de l'abstention au dernier moment peut aussi bouger. Maxence, une remarque ?
Non, au sortir du débat, il préférerait en tout cas chez Emmanuel Macron des sondages à 53-47 qu'un sondage à 58-42.
Ouais, mais est-ce que ça veut dire, Jérôme Jaffray, qu'au cours de ce débat, il a intérêt, comme il a d'ailleurs commencé en partie à le faire ces 10 derniers jours, à rediaboliser, à y aller sur cette corde-là, parce que celle de la conviction, et notamment des électeurs comme Chloé, cette corde-là, honnêtement, ne pourra pas marcher, ou en tout cas sera plus
Écoutez,
difficile.
S'il s'agit de la condamnation morale, je ne crois pas. S'il s'agit d'expliquer que le fascisme s'installe en France si Marine Le Pen est élue, on ne refait pas 2002. C'est donc sur le projet de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle est allée, elle, au premier tour. Alors, il y a eu la brutalité d'Emmanuel Macron et de son programme présenté. Ça a été quelque chose de marquant. Mais il y a eu aussi cette étonnante situation. Marine Le Pen est allée vers le premier tour, nimbée, je dirais, d'innocence, et sans que personne n'aille vraiment regarder ce qu'elle proposait exactement.
Avec le fameux paratonnerre Zemmour.
Et on a retenu que le pouvoir d'achat, les retraites. Point. Alors avec ça, évidemment, je prends des mesures positives pour le pouvoir d'achat, et les retraites, moi, je prends aucune mesure régressive. Ça plaît beaucoup, ça va très bien, mais elle propose des tas d'autres choses, Marine Le Pen, elle propose des tas d'autres choses sur l'égalité des citoyens français ou d'origine étrangère sur notre sol, par exemple, sur ce qui concerne la justice, sur ce qui concerne la politique internationale, tout ça, ça va faire partie du débat ce soir, logiquement, et c'est le travail d'Emmanuel Macron. La difficulté, c'est de ne pas être méprisant, de ne pas être donneur de leçons, et ça, il y a de gros efforts à faire sur ce terrain-là pour le candidat président, parce que personne n'attend qu'on vous donne la leçon, mais en revanche qu'on fasse ressortir ce que les gens avaient oublié dans le programme de Marine Le Pen. Les électeurs de gauche, Macron ne les convaincra jamais en disant « je suis prêt à être de gauche », mais il peut les intéresser en mettant en avant ces aspects-là.
Pas de leçon, vous dites, Jérôme Jaffray, je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon professeur. Décidément, on peut en trouver des vieilles choses dans les débats précédents. Je voudrais précisément, sur là où nous sommes dans le débat, écouter Françoise. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je vous pose une question. J'aimerais savoir, Madame Le Pen, on dit qu'elle est d'extrême droite. Alors j'aimerais qu'on me donne la définition exacte d'extrême droite. Car quand je vois que Monsieur Macron, lorsqu'il y a des gens qui manifestent calmement, on leur sort de suite les canons à eau. Quand je vois qu'il y a des gens qui se font éborgner, qui se font matraquer, des personnes âgées qui ont manifesté, par exemple, pour des retraites, qui ont été tabassées, j'aimerais qu'on m'explique comment on peut dire que Mme Le Pen est d'extrême droite, parce que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre.
Et j'entends en creux dans ce que vous nous dites, Françoise, que vous avez voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Est-ce que je me trompe ?
C'est ça, tout
d'accord,
à fait.
D'accord, ok. Non, mais c'est bien aussi de le savoir. Élodie Forêt, là-dessus, c'était...
La question colle.
Mais oui, mais pardon, mais oui, parce que c'était l'un des objectifs de Marine Le Pen dans cet entre-deux-tours, d'aller chercher les Françoises. Et elle a gagné quelques Françoises. Il faudra voir tout à l'heure avec Jérôme Jaffray ce que ça veut dire en termes de pourcentage, mais il y en a un certain nombre.
Oui, elle essaye depuis le premier tour de s'adresser. Même avant le premier tour, il y avait vraiment des meetings où on sentait qu'elle s'adressait à la gauche, elle parlait toujours dans ces meetings des droits fondamentaux, beaucoup de la sécurité sociale. Enfin voilà, elle s'adresse à ces gens à la gauche du travail. Ils appellent ça pas la gauche idéologique, pas la gauche voilà parisienne. Enfin voilà, c'est souvent, mais la gauche des ouvriers. En fait, c'est vraiment le terrain que le RN va essayer de convaincre. Et sur la question de l'extrême droite, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est une question compliquée parce que selon les politologues, il y a des fois des définitions qui sont assez différentes. Hein. C'est souvent un débat. Après, qu'est-ce qu'on peut dire en fait aujourd'hui du programme de Marine Le Pen à ce qui est d'extrême droite? Moi, j'ai du mal à le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ressort xénophobe contre les étrangers. Enfin voilà, elle veut supprimer le droit du sol. Elle veut supprimer, enfin rendre très difficile les regroupements familiaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inquiétude à avoir sur les contre-pouvoirs, sur tout ce qui est constitutionnel. On parle souvent qu'elle voudrait instaurer une démocratie illibérale. Mmh. Et ce qui est encore plus sûr que tout ça, c'est que c'est une populiste. Enfin, c'est vraiment, et le discours d'Avignon la semaine dernière, de son meeting d'Avignon d'entre-deux-tours, c'était vraiment bloc populaire contre bloc élitaire, donc vraiment avec une envie de renverser l'élite en place. Donc, est-ce que c'est d'extrême droite? Je laisse peut-être à Chloé Morin le soin de le dire.
Ce que je trouve vraiment intéressant, Chloé Morin, en écho à ce que dit à la fois Élodie et ce que dit notre auditrice, c'est qu'effectivement, il y a tout un pan de ce programme, en fait, qui effectivement n'a pas passé le deuxième tour. En fait, on en est resté à un certain nombre au pouvoir d'achat, effectivement, des thèmes de ce genre-là. Mais il y a tout un pan qui n'a pas passé le premier tour.
Oui, alors...
Et ça, j'allais dire, c'est très fort, j'y mets des guillemets, mais c'est très fort, en effet, d'avoir fait oublier tout un pan du discours.
Oui, alors je pense qu'il faut... finalement, cette question est très intéressante parce qu'elle illustre quelque chose que l'on voit très fortement dans l'opinion aujourd'hui, c'est le brouillage des repères. Au fond, est-ce qu'il est anormal qu'un électeur se pose la question qui est posée lorsqu'on voit que ceux qui appartiennent à la droite dite républicaine singent l'extrême droite, adoptent des positions parfois qui sont y compris plus dures que celles de Marine Le Pen. Donc, à force finalement que les uns et les autres empruntent à l'extrême droite pour se donner du crédit, notamment sur les questions de sécurité et d'immigration, il est normal que les électeurs ne s'y retrouvent pas et se disent finalement, attention, ajoutons à ça le fait que sur des points précis en gros, Marine Le Pen, elle ne gagne pas que sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les électeurs qui adhèrent à son discours, il faut voir aussi quand même qu'il y a un taux d'adhésion à certaines de ses propositions sur la sécurité, sur l'immigration, qui est très très fort. Je regardais un sondage Harris publié aujourd'hui. La mesure consistant à réserver le RSA aux étrangers en situation irrégulière qui travaillent depuis plus de 5 ans, elle a un taux d'adhésion de 72%. Mmh. Donc, il y a aussi tout un pan du programme de Marine Le Pen qui, aux yeux d'un grand nombre de Français, en fait, paraît pas du tout d'extrême droite, parce qu'ils sont d'accord avec ça. Mmh. Et donc, effectivement, on est face à une difficulté, et avec la difficulté supplémentaire qui est que nous ne savons pas quel effet a le traitement médiatique de Marine Le Pen. C'est-à-dire, si le fait que de nombreux médias décortiquent son programme n'est pas simplement mise à distance par une partie de l'électorat en se disant c'est idéologique, ils sont de gauche ou ils sont d'ailleurs, et donc forcément on va pas écouter ce qu'ils racontent, etc., la manière dont ils décortiquent le programme, parce que c'est des critiques de principe. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs aujourd'hui, et on le voit bien dans la manière dont les sondages évoluent depuis 10 jours. Depuis 10 jours, il y a un énorme travail qui est fait par les médias pour décortiquer les mesures, évaluer leur impact, etc. Les sondages, ils bougent pas tant que ça, en fait. Hein.
Mais ni dans un sens ni dans l'autre, par ailleurs.
Voilà, mais ça dit bien aussi la rupture qu'il y a entre une partie de la population et la classe politique, mais au-delà, les médias et les élites en général.
Jérôme Jaffray, j'ai vu que vous preniez des notes.
Oui, je pense que ce serait de la part... Je reviens au débat de ce soir, allez, qui nous occupe, je crois. Ce serait certainement une erreur d'Emmanuel Macron de qualifier Marine Le Pen dans le débat. Vous êtes d'extrême droite. Mm-hmm. Dit comme ça, ça n'est pas reçu. Et effectivement, on discute. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être d'extrême droite? Et effectivement, réprimer durement une manifestation quand on est au pouvoir peut s'y apparenter aussi. Donc, ça n'irait pas. Mais c'est par des exemples, c'est par des choses précises. Envisager projet des référendums qui mettraient en cause des libertés fondamentales à partir du moment où vous n'avez pas de garde-fou. Passer outre le Conseil constitutionnel pour décider de ce qui serait appliqué comme mesure, c'est-à-dire casser l'état de droit et le contrôle juridictionnel qui est un acquis fondamental de démocratie. Dans toutes les démocraties développées, il existe ce type de contrôle juridictionnel. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la porte ouverte à n'importe quelle position qui serait adoptée dans un moment d'émotion collective ou de colère du peuple et qui aboutirait à des remises en cause graves. Mmh. Il faut prendre des exemples de ce genre. Sinon, vous êtes dans une situation où vous êtes effectivement purement dans l'idéologie et vous ne faites pas prendre conscience à des électeurs qui spontanément disent « référendum, c'est très bien, le référendum, le droit au peuple de s'exprimer ». Oui, mais attention, il y a des référendums qui peuvent être dangereux.
Et puis, s'il doit l'attaquer, c'est sur ses positions, parce que certaines de ses positions sont complètement intenables. Enfin, le voile, l'interdiction du port du voile dans l'espace public, dans la rue, alors elle essaie de déminer là depuis quelques jours.
Il ira le chercher sur le flou, non?
Bah oui, parce qu'on n'y comprend plus rien. Enfin, vraiment. Et on a essayé de l'interroger, Marine Le Pen, sur ce qu'elle veut vraiment faire, parce que là, est-ce qu'elle veut mettre un critère d'âge? Enfin, c'est complètement confus et c'est intenable, en fait. Mmh. Donc, sur ça, il peut l'attaquer sur la priorité nationale, sur les logements. À un moment, elle disait ça allait mettre à disposition des millions de logements directement. Alors, millions, je sais plus si c'est le chiffre exact. Et puis maintenant, elle dit c'est pas rétroactif. Donc les étrangers qui sont aujourd'hui dans ces logements sociaux, on n'y touche pas, on ne les sort pas de ces logements. Mais du coup, ça ne tient pas. Donc je pense que là-dessus, effectivement, sur le programme, sur la tenabilité de son programme, il y a de quoi l'attaquer très largement sans aller sur des questions morales. Et je suis d'accord avec
Donc on est dans une espèce de Maxence Lambrecq, une sorte de 50-50, à la fois se défendre sur son bilan parce que c'est là-dessus qu'il sera attaqué lui, et en même temps attaqué sur son programme à elle. On se dit en vous écoutant que la tâche est plus ardue, en fait, du côté d'Emmanuel Macron qu'elle l'est, au fond, du côté de Marine Le Pen.
Ah bah, la liste est longue. Hein. Ouais. La liste des questions qu'Emmanuel Macron a eues par toutes ses équipes, par ses ministres, à poser à Marine Le Pen est très longue, parce que c'est à travers des questions et non pas à travers des attaques simples qui cherchent à piéger, finalement. Mais c'est trois... Enfin, moi, je vois trois... il va essayer de la faire... sortie déguisée de l'Union européenne, sortie déguisée de l'accord de Paris du climat et sortie déguisée de l'état de droit et du cadre de la Constitution. C'est trois gros points qu'il va essayer de lever et de montrer que sa formule européenne, Europe des nations, n'est en fait qu'une sortie déguisée de l'Union européenne, etc. Je pense que c'est ces trois points-là sur lesquels il va insister pour essayer que Françoise, finalement, vote pour lui.
Avec quand même le risque dans tout cela qu'il l'installe comme la candidate importante du second tour. Parce que c'est d'elle dont on discute uniquement ce qu'elle fera et qu'on ne retient rien de ce que ferait Emmanuel Macron. Et qu'Emmanuel Macron passe son temps à répondre sur le bilan et les attaques de Marine Le Pen sur son bilan et qu'à la sortie, ça ne donne pas l'idée que un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron est quelque chose de souhaitable. Alors bien entendu, toute une partie des électeurs, environ 10 millions, qui ont voté autour de Mélenchon et des proximités de Mélenchon, ne pense pas une seconde qu'un second quinquennat de Macron est souhaitable. Mais encore faut-il que les 10 autres millions, 12 millions d'électeurs qui pourraient voter Emmanuel Macron ne le fassent pas uniquement en se disant on n'a pas envie de Marine Le Pen, mais qu'ils aient un peu des éléments positifs pour se dire un second quinquennat d'Emmanuel Macron pourrait être une bonne chose pour le
pays.
Sauf
que si j'en crois notre auditrice précédemment, tactiquement parlant, pour Emmanuel Macron, il vaut mieux essayer de convaincre que l'autre est mauvaise que lui-même
c'est
est
ça,
bon,
c'est
parce que effectivement susciter plutôt le vote contre, parce que le vote d'adhésion, encore une fois, je me tourne vers vous pour vous pouvez dire le contraire, mais j'ai l'impression que le vote d'adhésion est beaucoup plus difficile à obtenir pour Emmanuel Macron, Chloé Morin.
Oui, tout à fait. On voit bien que, mais de toute façon, dans toutes les dynamiques politiques aujourd'hui, elles sont beaucoup plus faciles à construire sur le rejet et la peur, que ce soit le rejet de l'Europe, la peur de l'immigré, le rejet de l'autre côté des riches, etc. C'est beaucoup plus facile d'utiliser ce carburant-là que de créer une réelle adhésion, un réel enthousiasme. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays en rupture avec les hommes et les femmes politiques, qui n'a pas confiance structurellement dans les hommes et les femmes politiques. Donc à partir de là, lorsque vous êtes un candidat, vous avez déjà un mur de défiance à surmonter avant d'essayer de susciter un tout petit peu d'enthousiasme.
Et 2012, c'était le rejet Nicolas Sarkozy qu'il fallait faire monter et que François Hollande a réussi. Et en 2017, c'était le rejet de Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron a réussi aussi à...
Un tout petit peu de forme, Maxence Lambrecq. Jérôme Jaffré parlait tout à l'heure de la posture que doit être celle d'Emmanuel Macron, de ses difficultés à se montrer ouvert et pas...
Pas trop souriant.
Ouais, pas trop, et pas trop arrogant non plus, pas trop professeur, etc. Ils le savent, ça?
Oui. Gestion du sourire d'Emmanuel Macron.
C'est ça, j'allais dire. Ça se travaille devant le miroir, cette histoire de sourire.
Le sourire est vraiment l'un des critères majeurs. Et c'est vrai, quand on regarde la télévision, quand on regarde un débat, on retient d'abord l'image avant même, bien avant le fond du discours. Et beaucoup de ministres m'en ont parlé, oui. C'est quel sourire, et attention au sourire moqueur, attention au sourire arrogant, attention au sourire supérieur.
Et tout en souriant.
Oui, voilà, et tout en restant positif et souriant.
Et chez Marine Le Pen, c'est le calme. C'est le calme qu'il va falloir garder, le calme des vieilles troupes, comme elle dit depuis le début de la campagne.
Le calme, moins de notes aussi. Ça a
et
été
moins
l'erreur.
De fiches.
Ça a été
beaucoup moins de fiches.
Beaucoup moins de fiches. Ça a été l'erreur de du débat précédent, sachant qu'on n'a plus le droit au plan de coupe pendant que les candidats ne se regardent pas, si bien qu'on n'est pas censé voir l'un ou l'autre en train de plonger dans ses fiches. Voici Marie, qui est dans les Pays de Loire et sur franceinter.fr ou sur l'appli peut-être, nous dit « Le président actuel a fait le choix de ne pas faire campagne au premier tour, donc il n'y a pas eu de débat, donc les sujets n'ont pas été débattus. On ne peut pas rattraper maintenant en un débat plusieurs débats d'idées. » Qu'est-ce qu'on dit de ça, Jérôme Jaffré?
C'est deux choses différentes. Il n'y a pas eu de débat entre candidats avant le premier tour. Je pense que ça aurait été éminemment souhaitable pour le débat démocratique, qu'effectivement il a manqué quelque chose, mais qu'on pouvait quand même débattre des thèmes avant le premier tour, parce que finalement, si on comprend bien, Emmanuel Macron passait sa vie avant le premier tour à avoir Poutine et Zelensky au téléphone tous les jours, et entre les deux tours, apparemment, il n'a plus besoin de les avoir au téléphone, il a autre chose à faire. C'est quand même ce que tout le monde peut se dire, en disant, ben voilà, il est maintenant candidat complètement, parce que les choses...
On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a eu moins de coups de fil à passer subitement entre deux tours, parce que c'est devenu plus important.
Le côté formalité de la campagne de premier tour, accompagné de la brutalité du programme, était quelque chose d'extrêmement surprenant. Et du coup, le candidat est obligé de faire volte-face entre les deux tours, parce qu'il faut vraiment rentrer dans une bataille, et que c'est incompréhensible de ne pas le faire. Est-ce qu'il aurait fallu faire ce débat entre candidats? Pour le coup, c'est un grand risque quand même pour Emmanuel Macron. Parce que 12 candidats, si vous êtes tous les 12 candidats avec égalité du temps de parole, qui laisse un 12e donc au président sortant, qui a son bilan à présenter dans l'affaire, il pouvait sortir en guenille d'un tel débat. Voilà. Mais on aurait dû débattre des thèmes. Je donne raison à Marie là-dessus. Ça a beaucoup manqué.
Et en 2017, il y a eu l'idée de plusieurs débats entre deux tours.
Mais absolument. Alors, enfin, c'était un choix. Moi, je crois que c'était pas un choix de Nicolas Sarkozy à la base, donc avant, qu'il y ait plus de débats d'entre deux tours et qui a été abandonné, sous votre contrôle.
En tout cas, il y a eu trois.
En général, celui qui est devancé dans les sondages ou en situation difficile est pour plusieurs débats.
Bien sûr.
Où le président en place, Giscard, avait proposé par exemple trois débats à Mitterrand en 1980. Pas fou, Mitterrand n'en avait pris qu'un seul. Voilà, donc on est dans une situation. Mais quand il n'y a pas de président sortant qui se représente, il est beaucoup plus facile de faire des débats de premier tour, bien sûr.
Évidemment, mais là, parce que c'est le modèle américain, c'est trois débats, il me semble.
Trois débats, dont ce qu'on appelle un town-hall meeting, c'est-à-dire un débat qui est plus dangereux pour les candidats, où ils ne sont pas assis, face à face, etc., où ils sont micro en main, face aux gens. Et on se dit, en voyant ça, que quand est-ce qu'on ose, nous, en fait, dépoussiérer intégralement le débat politique? Je vous vois tous faire des yeux, visiblement pas maintenant, Chloé Morin.
Face au public, il y a eu des formats qui ont été faits par différentes chaînes avec les candidats qui étaient interpellés, et on les voyait d'ailleurs, on voyait que certains sont très mauvais dans l'exercice du meeting, peuvent être bien meilleurs dans la confrontation avec le public, etc. Donc il y a eu quand même pas mal de choses comme ça. Après, c'est vrai que il est tout à fait étonnant d'ouvrir certains sujets entre les deux tours. Et pour ce qui est du sujet démocratique, par exemple, s'agissant d'Emmanuel Macron, il sort de 5 ans où il a eu des problèmes de gouvernabilité majeurs. D'un côté, les gilets jaunes, de l'autre côté, la nécessité de confiner un pays, avec ce que ça implique en termes de décisions, de lourdeur des décisions sur ses épaules. On se rend compte qu'au fond, dans son programme, il y avait très peu de choses sur cette question-là, comment on gouverne un pays de plus en plus fracturé demain. Et il commence à l'aborder en fait au détour de quelques interviews d'entre deux tours, en parlant un peu d'une réflexion sur le septennat. Et donc ça, c'est très étonnant, parce que pour le coup, on parle d'un sujet qui n'est pas mineur.
Et ce sera le tout dernier sujet ce soir. Il y a 8 thèmes qui ont été fixés. Pouvoir d'achat international, mesures sociales, environnement. Et le 8e, ce sera la question institutionnelle qui, en effet, revient et revient. Et voilà, elle sera sans doute abordée à 23h15, 23h30.
Oui, et qui avantage plutôt Marine Le Pen, en plus. Oui.
Mais qui s'en est emparée
de manière assez habile. Qu'il a fait, pas d'hier, puisque pendant tous les confinements, elle était plutôt sur une ligne qui était de dire « je protège les libertés, il n'est pas normal qu'on enferme les gens, etc. Mmh. » Donc c'est plutôt habile. Et elle répond à une perception d'Emmanuel Macron d'une pratique du pouvoir qui, pour beaucoup, était autoritaire. Mmh. Donc on est à front renversé un petit peu.
Et ce que dit Chloé Morin, Jérôme Jaffray, répond à l'interrogation de beaucoup d'auditeurs qui disent « en fait, la campagne a commencé au deuxième tour, avec effectivement de vrais thèmes. Là, pour le coup, on a mis les deux mains dans le dur, réellement, ce qu'on n'a absolument pas fait au moment du premier tour. » C'est pour ça qu'il était finalement aussi dense.
Ce qui est vrai, du coup, c'est que comme le second tour ne présente qu'une partie de l'échiquier politique, et que tout un pan de l'échiquier politique est exclu, on n'est plus dans les combats gauche-droite type Giscard-Mitterrand, où vous couvrez l'ensemble du champ Sarkozy-Hollande, etc. On n'est plus dans ce champ-là. Et donc vous avez effectivement, ce que je disais, 10 millions d'électeurs, dont 8 millions a voté Mélenchon, qui sont en dehors de ce débat de second tour, tout en se disant, mais si on avait eu ce débat à fond avant le premier tour, peut-être que nous aurions pu aller beaucoup plus loin. Ça, c'est le point, effectivement, qui gêne. L'une des choses que peut faire également Marine Le Pen, c'est ce soir, dans ce débat, c'est d'obliger Emmanuel Macron à sortir quand même. Quand il parle d'une nouvelle méthode pour gouverner le pays, il ne nous a jamais précisé quelle était la nouvelle méthode pour gouverner le pays. Or, c'est un point fondamental. Si vous considérez que vous êtes perçu comme plutôt autoritaire, si vous allez être élu parce que d'abord, les électeurs n'ont pas envie d'élire votre adversaire. Vous avez quand même un problème de fonctionnement démocratique du pays qui est posé. Alors, si on doit attendre 23h15, 23h30, comme le disait Maxence, pour aborder la façon dont on préside et gouverne le pays, il va falloir s'accrocher dans le débat de ce soir.
Eh bien, écoutez, on pourra reprendre la discussion là où nous venons de la laisser. Je vais vous libérer, Chloé Morin, et vous aussi, Jérôme Jaffray. Merci beaucoup. Vous pouvez rentrer chez vous, regarder le débat. Je vous garde, Maxence, je vous garde aussi Élodie avec d'autres invités qui viendront tout à l'heure, juste après 20h, après 20h10 même, puisque la campagne obligatoire arrive par là également, mais on reprendra
clips de campagne.
Et oui, les clips de campagne arrivent effectivement à peu près à ce moment-là. Donc bref, je vous garde tout à l'heure et nous on se retrouve dans un tout petit instant.
Soirée spéciale, élection présidentielle
sur France Inter.
En attendant le débat, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, poursuit notre discussion entamée tout à l'heure après 19h autour des enjeux pour l'un, pour l'autre, toujours avec vos questions bien sûr, et des invités prêts à vous répondre. Je voudrais saluer et qui viennent d'arriver, Françoise Fressos d'abord. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Éditorialiste politique au Monde, Françoise. Nicolas Le Bourg est là également, bonsoir. Est-ce que vous êtes là?
Oui, bonsoir.
Eh ben formidable, vous êtes historien au Centre d'études politiques et sociales de Montpellier, spécialiste de l'extrême droite. Merci d'être là, autour de la table aussi, le service politique de France Inter avec Yael Gauz et avec Élodie Forêt qui suivait le Front National, avec Fabien Cazot du service économique de France Inter et Célia Quiré, spécialiste environnement. Je pense qu'on est parés là pour aller jusqu'à 21h. Je voudrais d'abord m'adresser à nos deux invités, commencer avec vous, Françoise Fressos. Qu'est-ce que vous regardez avec le plus d'attention cette fois? Je vais même le formuler différemment. Qui, selon vous, a le plus à perdre ce soir dans ces 2h30 de débat?
Alors moi, je trouve d'abord que c'est un rendez-vous extrêmement important parce que on est vraiment face à deux choix de société et avec un choix aussi qui porte sur ce qui travaille la société française depuis les années 1990, c'est notre appartenance à l'Union européenne. On voit bien que le projet de Marine Le Pen, qui a été finalement peu à peu divulgué pendant l'entre-deux-tours, touche à notre appartenance à l'Union européenne, touche à l'état de droit, et donc ça nous fait basculer dans un monde complètement différent. on voit bien qu'il y a un vote d'adhésion auprès de Marine Le Pen de la part de personnes qui disent, au fond, on a tout essayé et ça marche pas et on est malheureux, il faut essayer autre chose. On voit qu'il y a un vote de raison du côté d'Emmanuel Macron, mais qui n'a rien à voir avec l'adhésion qui a eu lieu en 2017. Donc, je pense que le débat va porter sur lequel est finalement le plus rassurant, avec lequel on risque le moins de perdre ce qu'on a envoyé. C'est pas du tout un débat de grand optimisme, mais c'est un débat, je pense, qui peut nous éclairer sur est-ce qu'il faut changer complètement de modèle pour être davantage, pour être mieux, ou est-ce qu'il vaut mieux quand même rester dans celui qu'on essaye de construire.
Et pour vous, Nicolas Lebourg, de votre côté, même question, qui selon vous a le plus à perdre? Et je vais commencer d'ailleurs avec ce que disait Françoise à l'instant. Est-ce que ce débat-là, peut-être même par rapport à d'autres précédemment, oui, a une vraie importance parce que là, on verra les deux choix de société s'affronter l'un l'autre?
Alors d'abord, vous avez raison, on ne sache pas qu'il n'y ait jamais eu un débat qui ait vraiment déplacé des voix.
Ouais.
Ça confirme des dynamiques. Pour Marine Le Pen, elle s'est fait accuser pendant 5 ans d'être une rentière. Elle a été renvoyée à l'image que la famille Le Pen, en fait, se présentait aux élections présidentielles, perdait et ne servait pas à grand-chose d'autre. Elle est là pour reconstruire son offre politique. Du côté d'Emmanuel Macron, il s'agit de transformer la réussite de transformation de l'offre politique qu'il a fait il y a 5 ans. Donc en fait, sur le plan personnel, ils sont chacun une croisée de chemin, tout simplement.
Mm-hmm. Avec quelque chose de supplémentaire, Nicolas Lebourg, peut-être pour Marine Le Pen, il y a ce qui s'est passé pour elle il y a 5 ans. Donc, c'est un peu ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, il y a une crédibilité à aller chercher quand même chez elle, qui pour le coup, là-dessus peut-être qu'elle joue gros.
Ah oui, c'est certain, l'image de Marine Le Pen a été profondément ternie, il y a eu une vraie chute de son capital charismatique, on a vu qu'elle est arrivée toujours à tenir le parti, que là elle n'était pas contestable pendant plusieurs années, et puis in fine, on a vu cet automne qu'une autre offre politique d'extrême droite pouvait essayer de se construire, qu'il pouvait y avoir des transferts, bien évidemment personne n'est jamais arrivé à construire une vraie concurrence au Front National sur son créneau, donc Monsieur Zemmour a fini à 7%, mais elle, oui, elle a eu cette difficulté.
Françoise Fressos, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un vote d'adhésion, effectivement, parfois pour Marine Le Pen, et un vote de raison plutôt pour ce qui est d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire qu'au cours du débat, il a plus intérêt à démontrer que son programme à elle est problématique plutôt que démontrer que son programme à lui, en fait, pourrait faire avancer le pays? Parce que dans les reports de voix, au fond, convaincre les électeurs mélenchonistes d'aller vers Emmanuel Macron est plus compliqué, pour l'idée, je veux dire, est plus compliqué que de les faire venir simplement pour le vote barrage.
Oui, parce que je pense qu'il y a une grosse déception par rapport à la proposition qu'il avait faite en 2017, qui était assez simple, c'était de dire moi je suis profondément européen, je pense qu'il y a eu des blocages dans le système politique parce que la gauche et la droite devaient tenir les deux bouts entre les anti-européens et les pro-européens et que finalement ça apportait des blocages. Mmh. Et moi, parce que je suis complètement dans cet dépassement du clivage, je vais résoudre vos problèmes. Et toute sa philosophie à l'époque, c'était l'émancipation de l'individu responsable avec un État qui lui apportait les forces pour s'émanciper et être dans l'optimisme. Et on a vu que le mouvement des Gilets jaunes a complètement cassé cette dynamique-là. Mmh. On a vu ensuite que la pandémie a fait basculer dans un monde complètement qui n'était plus du tout cette idée d'émancipation individuelle et qui n'était pas non plus cette idée d'optimisme. Et il a été, au fond, ce qu'il a sauvé dans son quinquennat, c'est qu'il a fait face aux crises et il a été président. Mais toute l'utopie de départ a été perdue et en fait, il l'a pas retrouvée dans son projet pour son deuxième la prétention au deuxième mandat. Et ce qui me frappe, c'est qu'il est allé chercher chez Jean-Luc Mélenchon l'utopie qui lui manquait, qui était de fond de dire bah maintenant, ok, je suis converti à la conversion écologique et le grand utopie de mon prochain quinquennat, c'est d'être la nation la plus avancée dans l'écologie. Et donc, on voit bien qu'il a été obligé d'emprunter à Jean-Luc Mélenchon. Donc, il n'a pas d'utopie lui-même. Je pense qu'il a un manque. Et ce qu'il doit faire, c'est, au fond, essayer d'éviter que les mélenchonistes aient envie de voter Le Pen plutôt que de se reporter vers lui, voyez. Mais il n'y a pas ce vote d'adhésion qu'il y avait en 2017. Et ça, je pense que ça, c'est une grande fragilité.
Et là-dessus, Célia Quiré, c'est vers vous que je me retourne, spécialiste environnement. Évidemment qu'on l'attend sur ce sujet particulièrement. Évidemment même qu'il y a eu une demande d'aller chercher ces sujets-là au cours de ce débat.
Oui, il y a un véritable enjeu pour Emmanuel Macron ce soir pendant ce débat. Il doit démontrer qu'il est, comme il le prétend, le candidat du climat. Là où pour lui, quand on voit les tweets de La République En Marche ce soir, Marine Le Pen, elle, est la candidate du gaz russe.
Et dans cet entre-deux-tours, il y a eu véritablement un tournant à Marseille. Et c'est pas un hasard si le président est allé à Marseille, là où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, là où il est député, pour proposer ce premier ministre, finalement, de la planification écologique, qui était lui-même une idée de Jean-Luc Mélenchon qui datait de 2008. Donc, il doit démontrer qu'il est le candidat du climat.
Et donner des précisions, d'ailleurs, sur ce qu'est ce premier ministre de la planification, très honnêtement.
Et donner des précisions, qu'est-ce que ça veut dire un premier ministre chargé de la transition écologique, alors qu'on avait déjà un ministre d'État dans ce quinquennat. Est-ce que il faut par exemple un budget pluriannuel pour la transition écologique? Peut-être que des précisions peuvent être apportées, et on attend aussi des précisions de la part de Marine Le Pen sur ce sujet, bien évidemment.
Alors j'allais dire, c'est un peu le mot clé d'ailleurs de ce débat, peut-être, Yaël Gauz, on attend quand même des précisions sur beaucoup de choses.
Oui.
Et j'ai presque envie de vous demander, est-ce que c'est le lieu en fait pour ces précisions là est-ce que c'est maintenant ou jamais?
C'est quand même maintenant. C'est quand même maintenant, à 4 jours du deuxième tour. C'est là que les choses peuvent vraiment se cristalliser définitivement dans la tête des Français pour le vote de dimanche. Après, il y aura des précisions, il y aura des tribunes pour expliquer, il y aura d'autres interviews jusqu'à vendredi, mais c'est quand même là, je veux dire, l'acmé de la campagne. C'est maintenant que les Français auront les yeux rivés dessus. 16 millions de téléspectateurs en 2017. Là, on verra combien ce soir, mais c'est vraiment, voilà, c'est un moment, c'est un rituel républicain, démocratique majeur sous la 5e République depuis 1974. C'est là que les choses se figent aussi. Est-ce que ce sera projet contre projet ou rejet contre rejet? Oui. C'est ça l'enjeu ce soir. Est-ce que adhésion ou raison, c'est ce que disait Françoise, ouais. Et surtout l'idée que ces deux finalistes ne doivent pas oublier qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. C'est que à eux deux, ils ne représentent pas l'intégralité, c'est le jeu de la démocratie du premier tour, du spectre politique français. On dit toujours il y a deux blocs. On entend beaucoup ça en ce moment. Un bloc de la France d'en haut qui serait macroniste et la France d'en bas qui serait mariniste. Mais on oublie le troisième bloc, celui que Mélenchon a réussi à instaurer dans ce premier tour, à 22%, et puis le bloc abstentionniste. Donc en fait, si on est même très rigoureux, les deux finalistes vont parler à la moitié de la France ce soir. Donc ils vont devoir aller chercher beaucoup d'énergie, beaucoup de choses pour parler à ceux qui n'ont pas mis un bulletin Le Pen ou un bulletin Macron dans l'urne dimanche.
Et c'est cela qui nous appelle. Je voudrais qu'on rejoigne Françoise, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je vous remercie de prendre mon appel et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je suis une électrice de Monsieur Mélenchon. Et l'autre soir, j'étais très très en colère. J'avais décidé de voter Marine Le Pen. Or, moi, qui ne suis pas toute jeune, bonnet blanc et blanc bonnet, c'est très compliqué pour moi. Donc, voter Le Pen, ça veut dire voter pour quelqu'un qui va organiser un référendum sur la préférence nationale. C'est donc très, très compliqué. Pour l'instant, je vais écouter l'émission de ce soir, mais a priori, je n'ai toujours pas décidé ce que je ferai dimanche dans le bureau de vote. Je vais certainement aller voter. J'irai voter parce qu'il faut voter. Ça fait partie de ma règle de vie. J'ai l'âge d'avoir toujours voté, sauf une fois où on m'avait dit bonnet blanc, blanc bonnet, tu n'y vas pas. Ça m'avait coûté beaucoup. Mais j'irai voter, je pense, et je ne sais pas si je vais voter blanc ou nul. Je suis désemparée.
Mais ça veut dire, que vous allez le regarder avec cet œil-là, Françoise, ou est-ce que de toute façon vous savez que ce sera blanc ou nul?
Je vais écouter, mais ce qui me sidère, madame, ce qui me sidère et ce qui m'angoisse, c'est que les sondages nous disent que madame Le Pen va être battue. Donc ça veut dire que Macron sera élu. Donc si vous voulez, j'ai encore un doute personnel très profond, très très profond. Donc voter Le Pen, pour moi, c'est le pire du pire. Mais voter, laisser élire Macron, c'est encore le pire de notre pire. Alors, c'est facho contre facho. Je sais plus quoi faire.
Françoise,
je suis un peu perdue.
Françoise, on a bien compris que vous étiez perdue, Françoise. Et vous savez quoi? Rappelez-nous demain, parce que c'est le thème du téléphone sonne de demain soir, justement. Ce sera et maintenant, effectivement, après 15 jours ou presque de campagne et un débat. Est-ce que vous avez changé d'avis? Je voudrais d'abord, j'ai vu que vous aviez levé la main, Élodie Forêt, je voudrais me tourner vers Nicolas Lebourg d'abord, en réaction avec ce que nous dit Françoise. Le premier réflexe, Nicolas Lebourg, de Françoise, ça a été de dire « Je m'en fous, je vote Marine Le Pen ». Moi, je suis assez curieuse de savoir si, selon vous, il y a eu beaucoup de voyages comme ça, en fait, qui passent par Marine Le Pen, ce qui est très inédit, en fait, dans une élection, parce que plein de voyages électoraux de ce genre, jusqu'à présent, ne passaient pas forcément par cette case-là.
Vous avez tout à fait raison. Et ce que disait madame, de manière extrêmement intéressante, c'est effectivement ce doute. Or, il faut bien voir ce qu'on appelle aujourd'hui le Front Républicain, qui a pu avoir d'autres noms. C'est une tradition à gauche qui remonte à la Troisième République, qui remonte à la fin du XIXe siècle. C'est une tradition au très long cours. Et ce que nous dit madame avec ces mots, c'est qu'en fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, beaucoup d'électeurs de gauche considèrent qu'il n'y a pas vocation à ce que ça dure pour l'éternité, qu'on peut être une autre gauche dans une autre époque. Alors ensuite, madame, elle se pose quand même aussi une question qui est importante. Si je peux me permettre en deux petits points,
allez-y.
C'est la question des sondages. Je voudrais quand même rappeler à madame que personne n'avait donné les résultats de Valérie Pécresse et de Jean-Luc Mélenchon. Les sondages, c'est pas l'élection. Et c'est vous, madame, qui êtes souveraine, hein, bien évidemment, dans la démocratie. C'est l'électeur qui est souverain. Donc vous votez pour qui vous voulez. Et bien évidemment, je juge absolument pas. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui êtes porteur de la souveraineté.
Françoise Fressoz, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que hier, Jean-Luc Mélenchon, dans sa première intervention, a parlé aux gens comme Françoise, en leur disant, vous savez quoi, l'un ou l'autre, c'est pas grave, essayez de m'élire Premier ministre, c'est la phrase qu'il a employée. Est-ce que le
c'est pas une manière de
renvoyer Françoise en disant, c'est pas grave, quel que soit votre choix, au fond, c'est pas grave?
Oui, mais moi je trouve que là, c'est grave, là du coup, je trouve, parce que ça veut dire qu'on fait l'impasse sur le deuxième tour de la présidentielle, et ça veut dire que c'est pour ça que je trouve que le moment est extrêmement important, parce que je pense qu'il faut pas se fier aux sondages. Je pense qu'il y a énormément d'abstentionnistes, il y a énormément de gens qui sont rebutés par Emmanuel Macron, qui vont être tentés par le vote nul ou le vote blanc, par l'abstention, et il peut y avoir, au fond, une élection de Marine Le Pen dimanche prochain, et là, il y aura quand même un basculement du pays, à mon avis, dans une autre logique. C'est-à-dire qu'on est dans la logique de on rompt avec l'Union européenne, on perd notre place dans ce qu'on a essayé de bâtir depuis Mitterrand. C'est grave, je trouve que c'est très très grave. Et donc, c'est pas une élection légère. Ce que je ressens aussi très fortement, c'est qu'au fond, on est dans une crise démocratique d'une extrême ampleur, et que ce qu'on entend aussi, c'est qu'au fond, beaucoup de Français ne se sentent pas représentés dans ce système, et que cette élection, quoi qu'il advienne, elle va forcément changer le mode de gouvernance du pays, parce qu'il y a un véritable cri d'alarme. Et je trouve que quand des personnes s'interrogent en disant « moi je vais voter blanc et nul parce que je déteste Macron », voilà, ça m'interpelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a focalisé sur sa personne qui suscite un tel degré de rejet.
Et on va parler de forme dans un instant, parce que c'est important, l'image qu'il va renvoyer, lui, et qu'elle renverra elle aussi. D'ailleurs, Élodie Forêt, je sais que vous vouliez intervenir depuis un moment. Vous levez le doigt vainement, je vous en prie, allez-y.
Non, j'ai deux petits points sur les voyages électoraux qui passent par Marine Le Pen. Moi, j'ai vu quand même des choses assez étonnantes dans cette campagne. J'étais en contact avec un agriculteur de droite classique qui voulait voter Valérie Pécresse depuis le début, depuis septembre, il disait, moi, je vote Pécresse. J'ai toujours voté à droite. À une semaine du premier tour, il me disait Marine Le Pen, incroyable, qu'est-ce qu'elle est solide, qu'est-ce qu'elle a travaillé. Alors je suis encore un peu rebutée par le bulletin Le Pen, mais à deux doigts quand même de mettre ce bulletin dans l'urne. Et puis autre chose, et là je réponds à Françoise, c'est vraiment la catégorie d'électeurs de gauche. Marine Le Pen, elle sait qu'elle va pas forcément avoir ces gens-là qui vont voter pour elle, mais ce qu'elle espère, c'est qu'ils votent blanc, effectivement. Mmh. Et pour ça, elle va tenter de les rassurer suffisamment. C'est ce qu'elle fait depuis quelques jours sur le voile. C'est hyper intéressant ce qu'elle fait sur le voile en ce moment. Alors ça peut paraître complètement fou et flou et un peu foutraque, mais d'un coup elle dit « j'écoute, je suis capable d'écouter ». Oui, cette grand-mère qui porte le voile, c'est pas grave, c'est un foulard, c'est pas à elle que je m'adresse, etc. Donc elle met vraiment de l'eau dans son vin en espérant que ces gens-là, à la fin, dimanche, ils votent blanc ou ils votent pas.
Et Nicolas Lebourg, ce qui est intéressant, c'est que, et on le disait tout à l'heure en première heure, mais ça prend forme aussi, notamment avec ce que nous dit Françoise, on a l'impression qu'il y a tout un pan du programme de Marine Le Pen et de ce qu'elle dit et de ce qu'elle est, qu'on a complètement mis de côté. En fait, on a gardé le pouvoir d'achat qui est resté, qu'elle a réussi à imposer au fond comme la narrative de cet entre-deux-tours. On a gardé les économies d'énergie, on garde des choses comme ça, mais tout un pan de ce programme, et donc tout ce qui peut être le plus rebutant pour les électeurs de gauche a été gommé de cet entre-deux-tours. Nicolas Lebourg, est-ce que je me trompe ?
Non, vous avez raison, mais en fait, il y a quelque chose où Marine Le Pen a bien joué. Moi, je trouve pas qu'elle fasse une aussi extraordinaire campagne qu'on nous le dit. C'est, on a un peu les storytelling qu'on avait déjà il y a 5 ans. Par contre, quand à l'automne, elle a été contestée par l'offre politique de Monsieur Zemmour, qui est venu là sur l'immigration très fortement, sur la question ce qu'il appelle le grand remplacement, etc., l'attaquer en disant qu'elle était molle, elle a eu l'intelligence, quand elle baissait dans les sondages, de dire c'est quoi la première préoccupation des Français, justement, dans les sondages, c'est le pouvoir d'achat. Je me positionne là-dessus et je n'en bouge plus, je n'en bouge pas, je reste sur cette première préoccupation. Elle en retire là les fruits. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Elle fait quelque chose qu'on a vu par exemple dans un autre cas de Front Républicain gagnant pour le Front National à une bien plus petite échelle, mais la ville de Perpignan avec 100 000 habitants, on avait vu Monsieur Alliot qui, pour la prendre, pareil, était sur un discours très mesa voce, ne pas, pareil, avait mis beaucoup d'eau dans son vin sur la question de l'immigration, sur la question de l'islam, évitait le sujet, de manière à démobiliser l'électorat de gauche, à empêcher la surmobilisation de l'électorat de gauche, qui est le phénomène classique qui fait perdre le Front National. Et là, on voit que cette même tactique est utilisée, effectivement. Il ne s'agit pas tant des gens de gauche voter pour moi que, après tout, c'est un combat entre des droites. Restez chez vous.
Fabien Cazot, qui voulait ajouter quelque
chose. Oui, effectivement, l'équipe de Marine Le Pen le martèle. Hein, le programme de leur candidate est, selon eux, le programme de plus large redistribution de pouvoir d'achat depuis les années 90. Alors, c'est vrai que la liste est longue, hein, et les mesures nombreuses. Les recettes ne sont pas du tout, d'ailleurs, les mêmes que du côté d'Emmanuel Macron. Il y a notamment le levier de la TVA, réduite sur l'énergie, supprimée sur 100 produits de première nécessité, encore faudrait-il savoir de quel produit il s'agit. Tandis que du côté d'Emmanuel Macron, on considère qu'en fait la première mesure pour le pouvoir d'achat, c'est le plein emploi, et c'est l'objectif, avec un chômage qui a déjà baissé à 7%, de le faire encore baisser pendant le prochain quinquennat. Et il y a aussi la question, on en parlait tout à l'heure, de la crédibilité du chiffrage des programmes, puisqu'il y a beaucoup de lignes côté dépenses chez Marine Le Pen, mais les économistes estiment, en tout cas ceux de l'Institut Montaigne, que le delta entre recettes et dépenses est de 100 milliards d'euros, ce qui est colossal.
Et ce qui n'est pas le genre de calcul qu'on fait en général, y compris d'ailleurs pendant ces débats-là. J'ai vu que vous aviez tiqué, notamment quand j'ai dit que il y avait tout un pan du programme dont on n'avait pas entendu parler entre deux.
Oui, donc on découvre dans l'entre-deux tours. Je pense qu'il y a eu comme un voile du pouvoir d'achat après le premier tour, pardon pour ce jeu de mots, mais ça a été masqué. Marine Le Pen a été masquée, mais masquée aussi par Éric Zemmour, qui, on l'a beaucoup dit, a été son paratonnerre, qui a pris la foudre russe à sa place et qui donc l'a un peu protégé et donc noyé parmi 11 autres candidats. On n'est pas allé forcément regarder à la loupe ce qu'elle disait précisément, ce qu'elle avait écrit comme texte programmatique. Et puis c'est maintenant que le révélateur est là, dans cet endroit de retour, qu'on voit qu'au-delà du pouvoir d'achat, il y a énormément d'items et de questions et de chapitres qui ont été écrits, tels que le FN, ancienne formule, ou dans la tradition de l'extrême droite française, et perdurait. C'est maintenant qu'on regarde, une fois qu'on retire la question du pouvoir d'achat, toutes sortes de questions, on pourrait les lister ensemble, qui posent question sur l'état de droit dont parlait Françoise Fressaus. Mais on le découvre vraiment maintenant qu'elle est seule, livrée aussi au projecteur et au travail des journalistes.
On va reprendre cette conversation là où on en est. Je voudrais qu'on fasse un tout petit aller-retour quand même à la Plaine de Saint-Denis, parce que c'est le moment où les deux candidats sont arrivés, l'un et l'autre. On va entendre tout simplement ce que ça donnait. C'était il y a un tout petit instant.
Concentré et prêt pour un débat qui doit nous permettre à l'un et à l'autre d'expliquer nos idées, nos projets pour la France, de clarifier aussi tout ce qui doit l'être de part et d'autre.
Monsieur le Président, est-ce qu'on se prépare d'une façon spécifique quand on affronte la même adversaire 5 ans plus tard?
D'abord, je crois on est conscient de l'importance de ce moment. J'ai aussi à répondre de tout ce que nous avons fait durant les 5 années qui viennent. Et non, je crois qu'il n'y a rien de spécifique. Il faut essayer de le faire de la manière la plus précise et honnête qui soit.
Écoutez, je suis tranquille, sereine, comme depuis le début de cette campagne. Je crois que l'enjeu, c'est d'exprimer aux Français mon projet, le vrai, parce que j'ai entendu et lu beaucoup de choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que je leur propose. Donc ce soir, j'aurai 2h30 pour qu'ils connaissent la vérité du projet pour tous les Français que j'ai conçu.
Marine Le Pen, est-ce qu'on se prépare de manière particulière quand on affronte le même adversaire 5 ans après?
C'est pas le même adversaire, puisqu'il a été 5 ans au pouvoir, ce qui n'était pas le cas la dernière fois.
Voilà pour l'arrivée de ces deux personnages. Françoise Fressos, des deux candidats, bien sûr. Moi, je trouve très intéressante la dernière phrase de Marine Le Pen. C'est pas le même personnage. Et en effet, et c'est peut-être ça la difficulté dans ce débat pour le président sortant, comme on le disait tout à l'heure en première heure et sans faire de jeu de mots avec les débats précédents, il y a un passif maintenant, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour lui, pour ce débat-là.
Alors, il y a un passif, ça c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est un quinquennat de crise, c'est un quinquennat de tension très forte, et donc ça fait au moins 2 ans qu'elle est sur cette thématique de dire « je vais complètement inverser les termes du débat ». J'étais apparue comme celle qui agressait, qui était violente dans le dernier débat, et là, je vais lui renvoyer la violence de la France en lui disant « c'est de votre faute ». Mais sa difficulté à elle, je persiste, c'est qu'au fond, son projet est tient sur un élément qui s'appelle la discrimination entre Français et étrangers. C'est-à-dire qu'elle finance son projet sur l'idée qu'elle fait un référendum en arrivant et elle prive de prestations sociales, elle prive de logement social toute une partie de la population qui l'occupe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement clivant, c'est quelque chose qui va créer des tensions très fortes dans la société, et elle se rend bien compte que ça crée si elle veut être la personne qui apaise et qui rassure, cette partie-là du projet ne tient pas. Donc je pense que ce soir elle va atténuer, elle a commencé à le faire sur le voile, elle commence à dire non, je vais pas chasser certaines parties de la population, mais toute la logique tient là-dessus. Et donc je pense que lui, il peut s'appuyer sur son bilan de président, de dire Madame Le Pen, voilà ce que c'est que de présider un pays dans une conjoncture qui est extrêmement difficile. Et je pense que tout, en fait, ce qui joue aussi dans cette élection en toile de fond, c'est qu'au fond, on va vers quand même des choses très difficiles. On va vers une transition écologique qui va être très difficile, parce que c'est un changement de modèle. On voit qu'on a des tensions en Europe, on a la Russie qui est en guerre contre les démocraties. Donc, tout le paysage, quand même, est très, très, très inquiétant. Et lui, il a quand même cet atout de pouvoir dire « Ok, vous m'aimez pas, mais j'ai quand même réussi à tenir la baraque. J'ai réussi à faire quand même la politique du quoi qu'il en coûte. J'ai réussi à conforter la construction européenne. Donc, on l'aime pas, mais ce qu'il a fait, ça peut quand même conforter dans une période d'extrême difficulté.
Fabien Cazot.
Oui, pour compléter ce que dit Françoise, le volet sur les étrangers et les aides sociales, c'est la plus grosse recette attendue dans le programme, chiffrée à 16 milliards d'euros, avec l'autre gros pilier, c'est la lutte contre la fraude, 15 milliards. Quand de l'autre côté, du côté d'Emmanuel Macron, il y a une réforme des retraites qui va continuer jusqu'à 64 ans ou 65 ans. L'arbitrage sera certainement soumis à concertation, mais là où Emmanuel Macron fait d'une réforme des retraites une recette, une source d'économie. Marine Le Pen, elle, en rabaissant pour ceux qui ont notamment commencé à travailler tôt l'âge de départ, en fait une dépense.
Célia.
Oui, on parlait aussi elle parlait, Marine Le Pen, de clarifier son programme. On peut prendre l'exemple des éoliennes, par exemple. Elle en avait fait une ligne très forte de campagne, notamment pour avoir l'adhésion des pêcheurs. Je pense aux éoliennes en mer ou même des agriculteurs avec les éoliennes à terre. Elle parlait de tout démonter et puis finalement, elle s'est rendue compte sans doute du coût et des difficultés juridiques. Et maintenant, on parle plutôt du cas par cas. Élodie Badel.
En vrai, dans son programme, Marine Le Pen, elle a toujours dit qu'elle démonterait les éoliennes en fin de vie et qu'elle stopperait tous les chantiers. Mais ce que je trouve assez étonnant dans ce qu'elle a fait, c'est que des fois, elle a conservé le flou sur ce programme parce qu'elle voulait aussi que les gens qui ont une éolienne à côté d'eux dans leur champ se disent que ça allait disparaître directement une fois qu'elle serait élue. Donc, elle a volontairement laissé un flou là-dessus. Mais dans le programme, il y a vraiment l'idée de démonter les éoliennes en fin de vie. Enfin, pas demain tout démonter.
En tout cas, elle va devoir clarifier sur ce point. Idem sur l'accord de Paris. Elle dit qu'elle n'en sort pas, mais en faisant un moratoire sur l'éolien ou même sur le solaire, pratiquement, elle va presque devoir en sortir. Donc, il y a tous ces points-là où peut-être que le candidat Macron pourra l'interroger.
Il y a précisément une question pour vous là-dessus, Célia, c'est celle de Bruno. Bonsoir, Bruno. Est-ce que Bruno est encore là? Est-ce que Bruno est parti? Mais il semble que Bruno soit parti. C'est dommage, parce que Bruno, qui est plutôt un électeur écolo, nous dit-il, voulait des précisions de ce point de vue-là sur le programme. Est-ce que, une fois, deux fois, trois fois, Bruno, vous êtes là ou pas?
Oui, ah, je vous entends.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, je voulais poser... Merci de prendre mon appel. Je voulais poser une question par rapport à ce débat. J'aimerais, moi, entendre dans ce débat des positions claires, surtout par rapport à l'écologie. Parce que pour l'instant, et vous venez de le signaler, il y a un petit peu des allers-retours. Vous venez de parler des éoliennes, mais même par rapport à M. Macron, il a organisé un grand débat. Il y a eu 160 propositions écologiques qui ont été émises. Il avait dit qu'il accepterait ou qu'il écouterait sans filtre. Et en effet, il n'y a pas eu de filtre parce qu'il n'en a retenu aucune, ou très peu. Donc moi, ce que j'attends de ce débat, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que les candidats vont proposer, mais vraiment de réel. Il ne s'agit pas de proposer et de dire des choses qui ne seront pas tenues après. Enfin, voilà.
On vous entend, Bruno, on vous renvoie aussi à ce que disait Célia tout à l'heure sur le contenu des programmes. Là-dessus, Nicolas Lebourg, quand même, moi, j'ai une interrogation. Est-ce qu'on est dans... On est pile dans la zone d'inconfort, en fait, pour une Marine Le Pen, quand on parle d'écologie. Il n'y avait pas grand-chose dans le programme. On a bien vu que c'est parce qu'elle est interrogée qu'elle y revient, et notamment sur les éoliennes. Est-ce qu'on est dans la zone d'inconfort, peut-être dans une zone d'inconfort mutuel, d'ailleurs, par rapport au bilan d'Emmanuel Macron, mais au moins pour elle, en tout cas, Nicolas Lebourg?
Alors, ils le prennent pas du tout de la même manière. Pour répondre à Bruno, Marine Le Pen a publié une petite plaquette sur l'écologie d'une dizaine de pages. Et très clairement, au niveau intellectuel, elle conçoit l'écologie sous l'angle du patrimoine. C'est une patrimonialisation de la nature. On reçoit la nature, il faut en prendre soin et la rendre en meilleur état possible. C'est du patrimoine. Emmanuel Macron, lui, comme il a été dit tout à l'heure, il va essayer de mettre en avant une politique de transition écologique. Donc, il y en a un qui est de la conservation et l'autre qui, au contraire, veut montrer une dynamique, une évolution. Donc, c'est pas du tout les mêmes angles, tant au niveau des politiques prônées, mais même de la philosophie de l'écologie qui est en jeu. Après, sur le plan technique, Marine Le Pen, son grand thème, son grand terme quand elle parle d'écologie, c'est la question du localisme, pour dire que justement, tout va ensemble, les politiques doivent être à l'échelle locale, l'économie doit être à l'échelle locale, et ça va bien avec l'idée de préférence nationale, résultat, etc. Ça donne un tout cohérent, mais vraiment, cette question centrale, c'est la question du patrimoine pour elle dans l'écologie.
Et pour ajouter, surtout pour Marine Le Pen, il faut prendre son temps, c'est-à-dire l'accord de Paris sur le climat peut-être, mais sans contrainte européenne, sans contrainte d'accord international, en prenant son temps, là où Emmanuel Macron se situe lui plus dans une logique de diplomatie.
Et puis sans contraindre en fait les gens, parce que elle dénonce l'écologie toujours punitive, un peu comme d'ailleurs à droite, hein, c'est un peu les mêmes discours, donc pas de contrainte, pas d'incitation pour que, ne pas forcer les gens par exemple à passer à une autre, à se passer d'essence ou à avoir d'autres moyens de circuler que la voiture. Enfin voilà,
Juste, il y a un signe égal entre les deux candidats, et c'est rare, c'est le nucléaire. Ils sont tous les deux complètement pro-nucléaire. Ça, c'est quand même très frappant. Et c'est ce qui les éloigne d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon ou de Yannick Jadot. On est vraiment sur...
Avec un nombre de PR différents chez les uns
au moins. Chez Emmanuel Macron, je crois que c'est une vingtaine.
C'est intéressant. C'est 20 pour Marine Le Pen. Dès 2031, là où Emmanuel Macron, c'est 6+8, donc à l'horizon 2035, dans les deux cas, c'est presque irréaliste. En fait, c'est un vrai point de rapprochement entre les deux candidats.
Et l'argument mis en avant, c'est légèrement différent. En tout cas, le principal, c'est-à-dire que du côté d'Emmanuel Macron, on insiste sur le nucléaire est une énergie décarbonée, et du côté de Marine Le Pen, c'est la souveraineté énergétique et donc industrielle, l'appareil productif qui est plus mis en avant.
Je voudrais vous soumettre à tous ce mail de Mathilde qui est à Boulogne et qui dit: j'ai voté Mélenchon, je pense voter Macron, mais s'il fait un pas de travers pendant le débat, je ne voterai pas pour lui, je ne veux pas qu'il soit dans le mépris, j'attends qu'il fasse un bon match, nous dit Mathilde. Comment on dit dans le football, marqué à la culotte, Emmanuel Macron, Yael Gauz.
Oui, parce que là où il a fort à perdre ou à gagner, Emmanuel Macron, c'est son discours du Pharo à Marseille, c'est un bouger énorme, électoralement parlant. C'est-à-dire qu'il s'est quasiment mis dans les mots et dans les pas des candidats Jadot et Mélenchon. Et on peut se poser la question, d'ailleurs, la plasticité, le côté attrape-tout,
caméléon
d'Emmanuel Macron. Quel Emmanuel Macron aurait-on eu ce soir dans le duel si ça avait été Jean-Luc Mélenchon en deuxième position? Quels arguments auraient-ils été cherchés? Quelle triangulation à droite encore ou pas, voire à l'extrême droite pour parler des thèmes immigration, sécurité qu'il a complètement occulté dans cet entre-deux tours? Donc, ça l'engage. Ce qu'il a dit à Marseille l'engage sur tout le prochain quinquennat. Il a dit, mon prochain quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Donc cette phrase va revenir de manière lancinante. Elle sera rappelée par les électeurs déçus de gauche de cet entre-deux tours.
C'est sûr qu'il y a un réel enjeu dans ce débat ce soir pour séduire l'électorat, soit de Yannick Jadot, soit de Jean-Luc Mélenchon, ou même des jeunes abstentionnistes. En tous les cas, on a bien vu, moi j'ai vu un changement de discours parmi les ONG ou parmi des jeunes militants climat, entre le lendemain du premier tour, où c'était dans les deux cas une mauvaise nouvelle pour la transition écologique, et aujourd'hui, il y a une petite inflexion de ce discours-là, où on dit, bon, il y en a quand même une qui est pire que l'autre en ce qui concerne le climat.
Voilà, ce qui n'amène toujours pas un vote d'adhésion, mais effectivement, c'est ce que disait Françoise.
Un vote plus raisonnable.
Un vote de raison de ce point de vue-là. Et là-dessus, d'ailleurs, Françoise Fressault, sur les points sur lesquels Emmanuel Macron ira forcément chercher Marine Le Pen, puisque l'international va venir très vite, je vais vous poser la question comme ça. Est-ce que Vladimir Poutine, ça devient une tarte à la crème, en fait, parce qu'elle doit répondre à cette question depuis 15 jours, Marine Le Pen, ou est-ce que, selon vous, c'est vraiment un argument qui pèse pour les gens qui regardent?
Ah non, je pense que c'est un argument qui pèse parce que c'est quand même... Je pense que toute la dimension internationale va énormément peser dans les prochaines années. Qu'est-ce qui est en jeu en ce moment dans l'Union européenne? C'est une sorte de réarmement face à une Russie qui est devenue, sous l'impulsion de Poutine, menaçante pour les démocraties, qui ne supporte pas que l'Ukraine puisse être attirée par la démocratie. Et donc, on sent que là, on est dans une dimension où il faut à la fois se protéger et il faut aussi savoir au fond pourquoi on se bat. Et je pense que le combat quand même d'Emmanuel Macron et qui peut imposer, c'est de dire on va défendre un modèle démocratique par rapport à un pays qui nous a agressés. Et là, je pense que la difficulté pour Marine Le Pen, c'est de justifier l'attirance qu'elle a eue pour Poutine, ses financements russes, et surtout de dire aux Français, si elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte l'OTAN, il y a une réunion très prochainement, elle y est pas, elle s'allie avec qui? Et là, je pense qu'elle peut aussi, la dimension de ses sécurité est quand même très forte dans ce débat. C'est qui nous protège le mieux contre tous les dangers qui sont en train de s'abattre.
Sur ce sujet-là, Nicolas Lebourg, on le disait précédemment, on a eu l'impression effectivement qu'il y a eu le paratonnerre Zemmour au début parce que c'était pire. Là, il faut qu'elle y aille, il faut qu'elle raconte, il faut qu'elle explique, il faut qu'elle dise où elle est dans cette guerre en Ukraine et dans cette relation à Poutine, Marine Le Pen.
Oui, puis avec des difficultés, parce que non seulement il y a toutes ces déclarations, mais il y a tous les réflexes du Front National, Rassemblement National, selon les années. Je prends un seul exemple, il date de la semaine dernière, mercredi dernier, le Rassemblement National a publié un document mettant en avant la politique énergétique de la Hongrie. On sait à quel point la question énergétique est importante, mais donc l'exemple c'était Monsieur Orban. Et qu'est-ce qui a été dit là-dedans? C'était qu'une des bonnes idées de Monsieur Orban, c'était de s'approvisionner en gaz russe. Alors c'était peut-être pas exactement le bon tempo pour publier ça, mais on voit bien que c'est vraiment des réflexes et qu'évidemment Emmanuel Macron va avoir tendance à l'amener là-bas. Avec, par rapport à ce que vous disiez aussi sur l'écologie, Emmanuel Macron, une petite différence quand même à noter pour les auditeurs, Emmanuel Macron n'aura pas le droit de se représenter ensuite. On ne peut faire que deux mandats présidentiels. Ouais. Donc lui, bien évidemment, il veut marquer l'histoire s'il fait un deuxième mandat, pas juste avoir un bilan pour une fois. Et donc la question de l'horizon de la transition écologique, d'une révolution écologique où son nom pourrait être attaché dans l'histoire, ça peut évidemment être pour lui quelque chose de tentant.
Et tiens, puisque je vous tiens là-dessus, Nicolas Lebourg, là-dessus, elle joue sa carrière électorale, non, sa carrière politique, Marine Le Pen, après c'est fini si elle perd ce coup-là, Nicolas Lebourg, non?
Alors ça a été beaucoup discuté, ouais. Il y a un an et demi, l'idée était plutôt que, évidemment, si elle ratait, c'était la porte de sortie, mais elle a eu une chance extraordinaire, c'est une fois de plus Monsieur Zemmour, parce que maintenant, si elle arrive à plus de 40%, elle pourra dire qu'elle a fait mieux que la fois d'avant, elle pourra dire qu'elle a été victime de trahison, elle pourra dire qu'elle a été victime d'une candidature parasite envoyée par le système, elle sera tout à fait légitime par rapport au parti et par rapport aux militants pour, si elle le souhaite, continuer à être la chef du Front National et être la prochaine candidate du Front National. Autant un procès aurait pu lui être fait il y a un an et demi dans la perspective d'un troisième échec, autant là, en fait, ça l'a plutôt remis en selle.
Élodie?
Non, je pensais aussi que ce débat avait beaucoup d'enjeux aussi pour elle ce soir, pour cette raison, parce que si elle le rate, ça peut entacher la suite de sa carrière politique. Si elle le réussit, effectivement, elle a toutes les raisons pour l'instant de rester en piste. Et de toute façon, elle a jamais totalement fermé la porte. C'est-à-dire que quand on lui dit c'est la dernière campagne présidentielle, elle a dit oui, a priori. Voilà.
On a beaucoup dit à ce micro qu'il y aurait une vague de dégagisme post-présidentiel 2022. C'est plus du tout aussi clair qu'avant le premier tour. Regardez regardez Jean-Luc Mélenchon, comment il a fait son comeback hier soir pour redire « je suis là et je joue la bataille des législatives ». D'ailleurs, il ne dit pas qu'il ne sera pas candidat aux législatives, on ne le sait toujours pas. Donc il joue vraiment le l'ultime combat.
Enfin, c'est vraiment ce qu'on a compris. Mais...
Alors qu'on avait, on aurait pu imaginer que c'était là, Jean-Luc Mélenchon, là aussi, stop, et pas encore. Et Marine Le Pen, même doute. Et d'ailleurs, c'est étonnant de cette campagne présidentielle, comme les valeurs refuges déjà connues ont largement dominé à plus de 70% le spectre politique, et tous les petits nouveaux ont sombré.
André, sur l'appli France Inter, revient à notre débat sur la guerre et il veut nous contredire, il a bien raison. Personne ne parle de la guerre en Ukraine, dit-il. Le Pen est payé directement par Poutine. Elle n'a jamais rien condamné. Il faut parler de ça. Il faut le dire aux journalistes qui vont animer le débat.
Alors elle a condamné ce matin, hier soir, l'intervention russe dans le Donbass.
Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que l'international, comme on le disait, devait être... c'était le souhait, en tout cas, d'une des équipe, qu'ils soient en début d'intervention. Finalement, ils ne se sont pas mis d'accord, donc il y a eu tirage au sort. Mais ça dit quand même jusqu'à quel point, et là pour le coup, c'est le clan Macron qui veut tirer évidemment ce débat vers l'international, en tout cas que le décor soit planté comme ça.
Mais oui, mais Marine Le Pen peut aussi s'en sortir à travers les conséquences de la guerre russe sur le pouvoir d'achat, et la boucle est bouclée. Et quand on dit l'international, les Français vont forcément se plonger dedans, s'y intéresser. J'aimerais, moi, peut-être qu'on se pose toutes ces questions, génocide, pas génocide, crime de guerre, pas crime de guerre, qu'est-ce qu'on fait avec Poutine, mais est-ce que c'est forcément la préoccupation numéro un, basique, des gens qui vont regarder le débat ce soir? Je suis pas certain. Il y a des fils à tirer, des conséquences, mais Marine Le Pen, le fil qu'elle va tirer, c'est quoi? C'est des conséquences sur la pompe, sur le lit, sur le prix de l'essence. Est-ce que la ristourne de 18 centimes, ça suffit? Non. Qu'est-ce qu'elle veut faire? TVA à 5,5, même si c'est pas conforme à la directive européenne, elle va pousser les feux sur le prix du carburant. Elle va être sur ce créneau-là, très concret, très presque égoïste, mais pouvoir d'achat. C'est d'abord ça la préoccupation numéro un, avant la guerre en Ukraine. Donc même si Emmanuel Macron la tire vers l'Ukraine et ses relations avec la Russie, qu'est-ce qu'il emporte après dans l'arbitrage des Français? Bonne question.
Sachant que Françoise Fressaud, c'est le pouvoir d'achat qui est le premier thème et le thème d'ouverture. Et au fond, ça va être une entrée en matière intéressante pour l'une comme pour l'un comme pour l'autre.
Oui, mais moi je pense qu'on peut pas non plus complètement séparer la question du pouvoir d'achat de l'environnement international, parce que Marine Le Pen peut pas.
On dit la même chose.
Qui vient beaucoup plus loin. Ouais.
On dit la même chose, François. Qui va gagner ce match du fil qui est tiré dans le bon ou dans le mauvais sens?
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que elle peut promettre un tas de choses, mais il faut qu'elle les finance. Et si elle ne parvient pas à les financer parce qu'elle se trouve tout de suite en difficulté avec l'Europe, que le franc est attaqué, que l'euro est attaqué, que les taux d'intérêt remontent, elle peut promettre un tas de choses aux Français. Ça ne changera rien. Donc c'est en cela que je pense que tout le décor international. Le sujet de fond, c'est est-ce que la France veut rester ou non dans l'Union européenne? Est-ce qu'elle a plus à gagner à rester dans l'Union européenne ou à la quitter? Et ça, c'est un débat, je trouve, essentiel, qui nous traverse, qui traverse le pays, presque depuis le tournant de la rigueur de 1983. Et Mitterrand, quand il dit je vais faire l'Europe, c'est parce qu'il sait très bien qu'on a plus à gagner à être dans l'Europe que d'être à la quitter. Et là-dessus, je pense qu'Emmanuel Macron a quand même des arguments, des atouts à faire valoir. Et alors que Marine Le Pen, elle est beaucoup dans des promesses. À chaque fois qu'il y a un prix qui augmente, elle est dans la promesse, mais après, comment elle le finance? Et ça, je pense qu'elle va être un peu coincée.
Fabien Cazot.
Oui, la difficulté, peut-être pour Emmanuel Macron, ça va être aussi être lié au fait qu'on sort de deux ans de quoi qu'il en coûte, hein, que les normes comptables sur les déficits et les dépenses des États, les barrières ont volé en éclats depuis deux ans. Donc le retour à la nécessaire discipline budgétaire, elle ne va pas forcément de soi non plus pour les opinions publiques françaises et européennes. Et Marine Le Pen aura de son côté beau jeu de dire, regardez, vous êtes affranchi pendant deux ans de ces règles, pourquoi on reviendrait dans ce qu'elle appelle des carcans budgétaires?
Et c'est clairement l'une de ses attaques, hein. C'est à chaque fois qu'il y a un problème, Emmanuel Macron fait un chèque. Et ça, elle va le marteler ce soir, c'est sûr.
Sur ces deux ans dont parlait, les deux ans de Covid notamment, et le quoi qu'il en coupe dont parlait Fabien, en revanche, Célia Quiré, sur ces deux ans qui ont été deux ans de parenthèse, il y a des chiffres qu'il arrange et qu'il met en avant.
C'est la baisse des émissions.
Exactement, voilà, c'est là que je vous emmène. Bravo.
Oui, effectivement, à Marseille, il a dit que les émissions de CO2 avaient
diminué de 14%,
ce qui est à la 12, vous voyez, c'est encore 12, pire, mais
ce qui est à la fois 12, ce qui est à la fois vrai et faux, parce que en fait, ils profitent de 2 ans de Covid où les émissions de CO2 ont évidemment baissé, mais on n'a pas les chiffres consolidés de la fin du quinquennat, et donc finalement, il est allé un peu vite en besogne là-dessus. Ça peut aussi lui servir, le quoi qu'il en coûte, pour financer sa transition écologique ou sa planification écologique, puisqu'il annonce déjà 10 milliards par an pour la transition écologique. Et finalement, c'est un chiffre qui aurait pu paraître dans sa bouche il y a 5 ans énorme et qui finalement là va paraître un chiffre comme un autre. Ça peut aussi l'arranger.
Yael.
Et attention sur l'Europe, parce que Françoise en parlait, évidemment, ça va être un des marqueurs d'Emmanuel Macron. On revit le match des européennes 2019, en quelque sorte. Souvenez-vous, progressiste contre nationaliste ou mondialiste contre patriote. Et c'était Marine Le Pen qui était arrivée en tête avec le RN à l'époque, à 23% de mémoire contre 21% pour le parti Renew En Marche. Là, à Strasbourg, devant la cathédrale, récemment, il y a eu un meeting d'Emmanuel Macron qui a dit « ce sera un référendum pour ou contre l'Europe ». Qu'est-ce qu'ils ont dit les cadres du RN et les proches de Marine Le Pen ? Youpi ! C'est justement le piège qu'on veut lui tendre, qu'il tombe dans le référendum 2005, perdu, souvenez-vous, le non au traité constitutionnel européen, traité d'Amsterdam, et c'était les europhiles ou européas, entre guillemets, qui avaient perdu. Donc, attention à l'arme européenne, quand Emmanuel Macron dit « c'est un référendum pour ou contre l'Europe », derrière, qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce que ça donne comme grain à moudre aussi à Marine Le Pen?
Et d'ailleurs, elle n'évacue pas du tout ces sujets. Elle a fait plusieurs conférences de presse à la fois sur l'Europe, sur la diplomatie, sur l'international. C'est pas du tout quelque chose qu'elle tient à distance en ayant peur d'affronter ces sujets-là. Pas du tout.
Françoise Fressos qui voulait intervenir. Françoise.
Oui, parce que je voulais juste rappeler quelque chose. C'est que la politique du quoi qu'il en coûte, elle a été permise à partir du moment où on a décidé de mutualiser les dettes par un accord franco-allemand au moment du Covid. Donc, si le sujet, c'est la France se met en difficulté avec l'Union européenne et rompt avec l'Allemagne, ce qui est dans le projet de Marine Le Pen, je pense qu'on ne parle plus de la politique du quoi qu'il en coûte. On parle de difficultés assez fortes de financement. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ça aussi le cœur du débat. Et si on peut apprendre des choses ce soir, c'est voilà, quelle est la réalité. Et encore une fois, je pense que la question de départ, c'est avec lequel on risque le moins pour affronter les 5 prochaines années.
Et qu'est-ce qu'on dit, il nous reste 3 petites minutes à peine, de ce qui est mobilisateur ou remobilisateur ou démobilisateur dans un débat comme celui-ci? Moi, j'ai été assez étonnée d'apprendre, Yael Gauss, c'est vers vous que je me tourne, que le débat de 2017, au fond, avait été démobilisateur, puisqu'à la fin, on s'était bien rendu compte de qui avait gagné. Beaucoup de gens se sont dit, pourquoi donc aller voter?
Ça rejoint la question, est-ce que oui ou non un débat fait bouger les lignes? Inversion des rapports de force, non, mais aggravation des dynamiques, oui, puisque avant le débat, Marine Le Pen était autour de 40% face à 60% pour Emmanuel Macron en 2017, et 4 jours plus tard, on est à 34-66, donc victoire très nette d'Emmanuel Macron. Ce débat avait creusé, quelque part, Marine Le Pen avait creusé son fossé dans ce débat.
Et en 2017, les questions économiques avaient fortement contribué.
Ah oui, parce qu'on se souvient effectivement des papiers recherchés, des erreurs, etc. On se souvient vraiment de ces scènes-là, puisqu'il nous reste à peine 2 minutes ou un peu plus que les candidats se sont installés dans leurs fauteuils respectifs.
C'est le raccord maquillage.
Ouais, exactement, sont en train de se faire maquiller les uns les autres. Sur ces 2 minutes, je voudrais qu'on parle de forme, tout simplement. Élodie Forêt, la forme chez Marine Le Pen par rapport à 2017, ça veut dire on respire et on se respire. Calme.
Oui, on reste calme et on parle davantage aux téléspectateurs. Je pense que elle a compris qu'il fallait pas toujours chercher à débusquer Emmanuel Macron, à essayer de l'abîmer. Non, là, elle va.
Elle
essayer.
Était dans l'invective et dans l'attaque la dernière fois.
Exactement.
Elle s'est rendue compte que ça n'avait pas été d'une efficacité.
Ça marche pas. Et du coup, là, au maximum, elle va essayer de dérouler son programme, de dérouler ses propositions et de parler de soi, en fait.
Il peut y avoir un angle social aussi qui peut être intéressant. Là, je m'éloigne un peu de la forme.
Oui, c'est pas grave,
même,
on va y revenir.
Par rapport à il y a 5 ans, que ce soit.
C'est moi qui regarde la pendule, ne vous inquiétez de rien.
Que ce soit Marine Le Pen avec une baisse de la TVA sur l'essence ou sur le gaz qui, par ailleurs, augmenterait notre dépendance aux énergies fossiles, ou que ce soit Emmanuel Macron, il aura peut-être une réponse aux Gilets jaunes aussi avec de l'aide pour une voiture électrique ou pour rénover son logement. Peut-être qu'il peut y avoir un virage social dans ce débat.
Moins d'une minute, Yael, on parlait de forme avec Marine Le Pen tout à l'heure. La forme chez Emmanuel Macron, c'est
surveiller l'arrogance. Ouais, on l'a beaucoup dit dans la première partie du téléphone sonne, mais c'est vraiment quelque chose que guettent ses proches. D'ailleurs, c'est l'agace, le président, qu'on lui dise tout le temps sois pas arrogant, mais c'est bon, j'ai compris. Ça fait une semaine que ses conseillers le tannent avec ça. L'enjeu pour lui, c'est de poser un maximum de questions à Marine Le Pen pour débusquer ce qui n'est pas clair dans son projet et incarner, lui, la République contre une candidate qui ne serait pas républicaine. C'est ça l'enjeu pour lui, avec une question sur la suite derrière. S'il est réélu dimanche, qu'est-ce qu'il joue ? Union nationale ? Là aussi, puisque Marine Le Pen veut faire Union nationale aussi. On a deux candidats qui vont devoir élargir énormément leur spectre politique s'ils gagnent dimanche.